J'ai pensé à un homme, à Job. Une histoire de prospérité financière dans le livre de Job. Vous allez me dire, non, mais alors là, tu es complètement iconoclaste, parce que si quelqu'un a été pauvre, c'est bien Job, puisqu'on dit pauvre comme Job. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de me pencher sur le livre de Job. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas prêché sur Job. J'ai prêché plutôt au début de mon ministère et ça faisait plusieurs décennies, je crois, que je n'avais pas du tout ouvert ma Bible à cet endroit-là pour travailler des textes du livre de Job. Je me suis remis, je vous avoue que j'ai bossé. J'ai bossé une semaine entière parce que je voulais aller un peu en profondeur. Je me suis rendu compte que c'est extrêmement riche, beaucoup plus riche même que ce qu'on pourrait dire d'une manière superficielle, avec des tas de choses à comprendre, à réaliser, qui sont peut-être plus complexes même que ce que nous laisse apparaître une lecture superficielle. Dans le fond, on ne sait pas qui a écrit le livre de Job, on ne sait pas de qui il s'agit. Je vais être un petit peu affreux. On ne sait même pas si c'est une histoire vraie ou si c'est simplement une histoire qui est racontée ou qui se racontait. Il y a des tas de choses énigmatiques. Vous avez dû les voir quand vous avez lu vous-même le livre de Job. C'est ces anges, ces fils de Dieu qui viennent devant le Seigneur et à qui l'Éternel dira ben, « Que faites-vous ? Où êtes-vous allé ?» Puis il y en a un qui se pointe en disant ben, « J'ai parcouru la terre, as-tu vu mon serviteur ?» Ouais, voilà. Ça nous semble un peu énigmatique. Alors, je n'aurai pas des réponses à toutes les énigmes qu'apporte ce livre. Par contre, j'ai découvert certains points que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vais commencer par une introduction et je me suis appuyé sur un article qui vient de la revue Quart Monde. C'est une revue protestante qui est bien faite. Voilà, alors je vais vous lire tel quel l'article, il fait quelques lignes. Le livre de Job est une déconstruction de nos élaborations théologiques. Face à la question du mal, l'histoire est la suivante. Job est un homme qui a tout pour être heureux. Il a une bonne santé, une belle famille et une grande fortune. Et tous les jours, Job ne manque pas de rendre grâce à Dieu. Le drame arrive lorsqu'il y a une entrevue entre Dieu et son ennemi, le Satan. Alors, je précise une chose dès le départ. Dans le livre de Job, le Satan n'est pas un nom propre. Ce n'est pas Satan, c'est le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi, sans identité. Et la Bible ne lui fait même pas la grâce de le reconnaître comme une personne. Simplement, elle les voit comme étant l'adversaire. Donc, un jour, il y a un dialogue entre Dieu et son ennemi, le Satan. Alors que Dieu loue la piété de Job, son adversaire a beau jeu de lui faire remarquer qu'il n'est pas difficile d'être pieux quand on est béni. Étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. Dieu n'a pas d'autre solution que d'éprouver Dieu n'a pas d'autre solution que d'éprouver Job pour tester la gratuité de sa foi. Il perd ses enfants, sa fortune et sa santé. Et l'iconographie nous le présente sur un tas de fumier. Voilà, Job, tel qu'il est représenté par les peintres, avec ses trois amis qui sont là, en train de l'accuser, de lui parler, etc. Voilà, on a la scène typique qui représente, si vous voulez, qui résume le livre de Job. Il reste juste à Job trois amis qui font le voyage pour le visiter. Lui, qui est dans la peine. Les choses se gâtent... Alors, si j'en suis là. Pardon. Ah oui, c'est ça. Les choses se gâtent lorsqu'ils essayent de trouver un sens spirituel au malheur qui le frappe. Ils tiennent des discours bien pieux pour expliquer à Job qu'il a dû commettre quelques fautes pour être éprouvé à ce point. Job résiste. Il ne sait pas ce que fait Dieu, mais il refuse de rentrer dans la logique rétributive de ses amis. Pendant 35 chapitres, Job et ses amis discutent sur Dieu et Dieu se tait. Puis j'arrive à mon autre page. Quand il sort de son silence, il prend Job par la main pour lui proposer une visite de la création. Il lui parle météorologie, avec la grêle et la neige, les éclairs et le tonnerre, le vent et la pluie. Il lui parle zoologie, en évoquant la chasse de la lionne, le petit de la biche, la bêtise de l'autruche et la puissance du cheval. Il parle mythologie avec l'évocation du crocodile invincible, merci, et de l'hippopotame indomptable. Ces chapitres sont superbes, mais à première vue, ils n'ont que très peu de rapport avec le débat qui oppose Job à ses amis. Pourtant, Job y trouve son compte et confesse sa foi retrouvée. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et Dieu le réintègre dans sa position initiale. Voilà, résumé en quelques mots, si vous voulez, les 42 chapitres du livre de Job. Alors certes, quand on lit ce livre, il y a quelques précautions à prendre. D'abord, ce livre n'est pas un exposé doctrinal sur ce qui se passe dans le ciel. On se dira, ouais, chouette, quand on lit le livre de Job, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel, etc. Ce n'est pas du tout le propos. Ce n'est pas un livre qui parle sur Dieu. Ce n'est pas un livre qui nous parle sur le Satan. Non, c'est un livre qui nous raconte une histoire. Il nous parle avant tout de ce qui se passe sur Terre, avec un homme qui a des doutes, des incompréhensions et des certitudes qui sont terriblement fragilisées. Job est en quelque sorte le champion de Dieu, où Dieu accepte que son amour, sa générosité soient remises en question. Le livre de Job remet Dieu en question, complètement. Sur son amour, sur ce qu'il est capable de faire, voire même de protéger un homme qui a pour lui beaucoup, beaucoup d'importance. D'une certaine manière, il nous parle de Jésus qui s'est abaissé sur la terre, s'est appauvri pour nous parler de la grandeur de Dieu. Puis bien sûr, il nous est parlé du Satan, l'adversaire, non pas comme une personne, mais plutôt comme une fonction, une manière d'agir ou d'exister, sa raison d'être est d'attaquer, de diviser et d'accuser. Voilà donc, là j'en ai fini avec mon introduction, je voulais vraiment la rédiger pour qu'elle soit plus claire, etc. Vous pourrez avoir mes notes, bien sûr, si vous le désirez. Alors, la prospérité suivant le livre de Job. Quand on lit son livre, on est frappé par cette prospérité initiale. Dans Job, chapitre 1er, versets 1 à 5, il nous est parlé de ses biens, de son intégrité devant Dieu, sa famille, ses amis, sa piété. C'est quelqu'un qui a l'air de compter aux yeux de Dieu. Ah, la famille de Job! Il était connu comme étant très riche, comme étant un homme pieux. Un homme qui aimait les choses de Dieu, quelqu'un qui avait une grande valeur. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ces quelques versets, s'il vous plaît? Il y avait. Voilà, merci. Vous remarquerez qu'il a sept fils et qu'il a 7 000 brebis. Il a trois filles, il a 3 000 chameaux. Hein. Je sais pas, je sais pas si les fils étaient des chameaux, en tout cas, c'était. ça m'a toujours fait rigoler de voir cette, si vous voulez, cette multiplication par mille de ces enfants pour les brebis et aussi pour les chameaux à partir des filles. Alors, on voit une prospérité qui est là, qui est abondante, et puis il y a un désastre. Un désastre qui est très fort. Ah, d'ailleurs, j'ai encore continué. Ah oui, c'est ça. Vas-y. Voilà. Je dirais bien sous tous les rapports. Vous me suivez là? Mieux que Job, tu n'as pas. Et c'était vraiment le type top. Alors, par rapport à ça, il y a un désastre où il y a une attaque du Satan, des circonstances compliquées, des événements. Alors, bien sûr, moi, ça me met des tas de choses dans mon esprit. Certainement qu'il y a des choses qui vous parlent, qui vous interpellent, qui peut-être résonnent en vous ce soir, ou brusquement, il y a un désastre qui nous tombe dessus. Je pensais à ces gens, par exemple, dont l'immeuble a explosé hein, tout récemment dans les nouvelles qu'on a eues. Je pensais à ces Juifs qui ont été massacrés à Sydney. Je pensais à tout ça, voilà, des gens qui perdent tout, qui perdent leurs biens, qui perdent leur famille, qui perdent tout. Voilà, ça existe. Malheureusement, c'est le problème de notre société avec tout ce qu'il peut y avoir de bouleversant et dans lequel nous n'avons pas de réponse. On n'a pas de réponse par rapport au mal qui peut exister. Et ce qui est curieux, c'est que Job n'aura pas de réponse. Parce que autant Dieu lui parle hein, au chapitre. À partir du chapitre 38, en lui montrant la création, etc. Mais Dieu ne lui donne aucune réponse. Il y a un grand silence et Dieu va le secouer, l'interpeller, et je dirais que dans ce silence, il va entendre Dieu. Je dirais que ça fait partie des énigmes que véhicule ce livre. Alors, le désastre. Avec une attaque, des circonstances effroyables, des événements affreux. Et alors, on pourrait lire le texte. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Voilà. Là, déjà, je n'y comprends plus rien. Vous y comprenez quelque chose? Je dirais, c'est quelque chose qui est énigmatique. Comment le Satan peut-il être devant Dieu? Et vous avez remarqué, ce n'est pas le Satan qui cherche. Tu as remarqué, mon serviteur? Il est drôlement bien, hein? Là, on a l'impression que Dieu est en train de le piquer. Et l'autre, j'allais dire comme une cloche, excusez-moi, hein. L'autre, il mord à l'hameçon en disant, ben oui, il s'est piqué au jeu, ah ben oui, tu sais, il est drôlement bien, mais c'est normal, ben tu le payes quelque part. Et il dit, mais touche-le un petit peu, tu verras, en fait, que sa foi, sa piété, son amour pour toi, ne vaut rien du tout. Et c'est Dieu qui le provoque. On continue la lecture. Alors, je vous invite à... à lire. Ça, excusez-moi, je suis pas cynique, ça ressemble à un sketch. Vous voyez pas? On voit les serviteurs qui se succèdent les uns après les autres. Voilà, je me suis échappé, tous les chameaux sont détruits. Et puis il n'a pas fini de parler que je me suis échappé, eh bien, toutes les brebis ont été détruites ou ont été enlevées, je ne me souviens plus. Enfin, on a l'impression qu'il y a, excusez-moi, ça frise de gag. C'est horrible. Il y a comme une banalisation de la souffrance, et Job entend comme un glas qui résonne chaque coup dur annoncé par les uns, par les autres, il les reçoit, et il entend avec la mort de ses enfants, avec la perte de ses biens, avec quelque chose qui le touche complètement. Curieusement, on ne sait pas comment le Satan est intervenu, mais en tout cas, il se passe des choses compliquées qui vont affecter la vie de Job. Alors, on continue la lecture. Tu peux lire encore cette phrase? C'est-à-dire... Merci. Merci. Merci pour cette longue lecture. Tu étais gêné par quoi? Ah, d'accord. Voilà. Là, on arrive. Job n'a plus rien. Il n'a plus que lui. Il a quand même, malgré tout, trois amis qui sont pas si mal que ça, les amis, parce qu'ils ont fait quand même un long voyage pour le rencontrer. Vous auriez, vous, en cas de problème, vous avez perdu tous vos biens, tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes malade comme un chien, alors on ne sait pas exactement ce qu'il avait. Il ne devait, devait pas être très ragoûtant, puisqu'il est là en train de se gratter de partout. Et puis, il a quand même trois amis qui vont se déplacer. Comment? Plus sa femme. Sa femme. Alors, on a tiré à boulets rouges Madame Job. Hein. Ouais, cette bonne femme, elle est pas la foi. Elle a essayé de détourner son mari de la foi. Attends, elle vient de perdre ses enfants. Combien il y en avait au total? Huit. C'est huit enfants. Même s'il y avait 1 000 fois plus de chameaux que d'enfants ou de brebis que les garçons, n'empêche qu'il n'y a plus rien. Même plus la maison. Il n'y a plus rien. Et en plus, son mari, qui est un homme intègre, est en train de souffrir, le martyre, à cause d'une maladie qui est là, qui le ronge et qui lui fait du mal. Alors, si vous étiez tenté de tirer à boulets rouges sur Madame Job, écoutez, remettez vos mains dans vos poches, ça serait trop dommage, parce que je crois que cette pauvre femme, elle a dû faire ce qu'elle pouvait. En tout cas, mais il y avait elle et les trois amis, plus un quatrième qui viendra, qui apparaîtra. Alors, il apparaît d'une manière énigmatique. Il s'appelle Elihu. On ne sait pas trop pourquoi il débarque. En tout cas, il arrive à un moment donné sur la scène publique, plutôt sur la scène privée de Job. Alors, il y a un point qui est important, c'est de voir la consolation de ses amis. Parce que ses amis sont venus pour le consoler. Et ils vont attendre pendant 7 jours avant d'ouvrir la bouche. En fait, la tradition, c'était que la personne était dans le malheur, donc on attendait qu'elle s'exprime avant de vouloir intervenir, avant de vouloir l'aider d'une manière ou d'une autre, certainement très, très psychologique, et je regarde un peu Carrel là, certainement mieux d'attendre la personne s'exprimer. En tout cas, Job s'exprime au bout d'un moment, au bout de 7 jours, je ne sais pas si moi j'aurais attendu 7 jours, et les amis donc vont prendre la parole. Et là, c'est là que ça commence. Leur discours attaque Job au lieu de le comprendre. Ils lui disent en substance, ta piété et ta foi devraient être ton assurance. Facile de dire ça, quelqu'un qui souffre. Je ne comprends pas, toi qui as la foi, pourquoi réagis-tu ainsi? On serait tenté d'avoir le même discours que les amis de Job. Et puis, à un moment donné, il commence à suspecter un petit peu quelques péchés cachés en disant, de toute façon, on le sait, les innocents ne périssent jamais, mais les injustes récoltent ce qu'ils ont semé. C'est vrai, qui sème le vent récolte tempête. Et Job, de se décrier en disant, non, mais attendez, moi, vous n'y êtes pas du tout. Moi, je suis un homme pieux qui respecte Dieu, qui aime Dieu. D'ailleurs, vous avez vu, si vous aviez regardé quelques chapitres auparavant, vous verriez que je fais des sacrifices pour mes enfants, pour pas qu'ils pêchent, que Dieu leur pardonne. Et là, vous êtes en train de me descendre en disant que je n'ai pas la foi, que je manque, que ma piété n'est pas bonne et que je n'ai pas d'assurance et que, ben, voilà, ce qui m'arrive, finalement, je le mérite. C'est un petit peu ça qui apparaît dans leur discours. Et puis ils diront, Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Et ça, Job, il le sait. Job, il sait très bien que Dieu est juste. Mais ce n'est pas parce qu'il sait que Dieu est juste qu'il comprend ça. Il ne comprend pas. Et je dirais, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais ce qui va caractériser l'épreuve de Job, ce n'est pas simplement les discours méchants, moralisateurs, religieux de ses amis, c'est aussi le silence de Dieu. Parce que Dieu, pendant 38 chapitres, si je ne me trompe pas, 37 chapitres, Dieu ne va pas bouger. Il a parlé dans le ciel, il a parlé au Satan, mais il n'a rien dit à Job. Et Job est là, se questionnant en disant, mais voilà, je vais monter là-haut, enfin, on verra ça un peu plus loin. La théologie de Job et ses amis est juste, mais elle n'apporte pas toutes les réponses. Mes amis, mes frères et mes sœurs, on peut avoir une théologie juste sans qu'elle soit juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'elle sera juste, si vous voulez, bibliquement, avec les arguments qui sont bibliques, étayés, que l'on va fixer, mais qui ne sont pas du tout dans la conception de Dieu. Et dans le cas précis, ils sont en train de dire, tu devrais être, tu dois pas être innocent puisque tu es en train de souffrir, tu es certainement injuste et tu récoltes ce que tu mérites. Dieu est juste, de toute façon, ce qui t'arrive, ce n'est pas normal, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Sauf que c'est la faute de Dieu. As-tu vu, mon serviteur Job? As-tu vu comme il est bien? Oui, mais si tu le touches un peu, il va te renier. Eh bien, chiche, touche-y et tu verras comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous pensez de ma démonstration? Ça colle? Ça, vous avez envie de partir en courant? Si vous le faites, je vous suivrai parce que moi, j'ai envie de partir en courant aussi. Quand je comprends ça. Il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on ne comprend pas et qui parfois pourraient nous sembler injustes. Et chacun l'a subi d'une manière ou d'une autre. Leurs incompétences procèdent à des remises en question de la foi de Job. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Job, en plus de son épreuve de tout perdre, de perdre ses enfants, d'avoir cette maladie épouvantable et d'avoir le silence de Dieu, il y a en plus les amis qui le remettent totalement en question. Et ça, c'est terrible. Il y a quelques années, avec Hélène, on était dans une église, notre église initiale, où tous nos enfants sont nés. Ils sont présentés au Seigneur et notre troisième arrive. On apprend qu'elle sera sur un fauteuil roulant et que ça sera certainement très compliqué et que jusqu'à sa mort, elle marchera avec un fauteuil roulant. Donc, alors l'église, très inspirée, nous a proposé de prier, de faire une journée de jeûne et de prière. Alors nous on a suivi, hein, prier pour notre enfant. Vous pensez bien que c'était pour nous ce qu'il nous fallait, ce qu'on attendait. Et donc on a organisé un jeûne et prière dans notre église. Je commençais tout juste mon stage de pasteur là. Tout. Et puis ça a bien commencé. Hein. Franchement, ça a bien commencé. Puis après quand même les gens priaient pour nous. Seigneur, donne la foi aux parents. Sous-entendu, ils n'ont pas trop la foi, donc c'est peut-être important que tu les aides un petit peu. Et puis peut-être qu'il y a des péchés dans leur vie. Ben oui, si vous saviez tous mes nombreux péchés, mais Dieu le sait aussi. Et puis, si ce n'est pas les parents, c'est peut-être les grands-parents. C'est-à-dire que le grand-père, c'était le pasteur. Donc c'était la proie idéale. Écoutez, moi je suis parti au bout d'un moment, je commençais à avoir plein le dos. Là, je suis parti, là. Et j'ai claqué la porte. J'étais moins courageux que Job. J'ai vraiment claqué la porte. Boum! J'étais moins courageux que Job. C'est parfois plus facile de pointer du doigt à quelqu'un et dans l'épreuve où il sera, de trouver des explications, comme les amis de Job, d'avoir des certitudes sérieusement bétonnées, avec des arguments bibliques, avec un grand appui, avec un grand aplomb, et puis finalement être complètement à côté. Alors, Leur incompétence procède à des remises en question de la vie de Job et ils parlent de ce qu'ils ignorent. Faisons attention de ne pas toujours vouloir expliquer ce qui concerne Dieu. Si vous lisez le livre de Job, si vous y réfléchissez, si vous le méditez, vous verrez que à la fin du livre, vous y comprendrez encore moins. C'est fou. Et nous réalisons que plus on cherche à comprendre Dieu, et moins on se rend compte qu'on y comprend quelque chose. Dieu, excusez-moi de le dire comme ça, c'est vachement simple. Dieu, c'est vachement compliqué. C'est comme ça. Et vouloir le définir par quelques mots qui viennent de ce qu'on peut imaginer est quand même un petit peu périlleux. Ayons l'humilité d'accepter de ne pas comprendre. Si vous comprenez tout, vous avez de la chance. Au bout de quelques années de marche avec Dieu, avec Hélène, on en arrive à la conclusion que pour l'instant, on n'y comprend rien. On ne comprend rien du tout, sauf qu'on lui fait confiance. La philosophie qui consiste à dire « si tout va bien pour toi, c'est parce que tu es bien et que Dieu te récompense en te bénissant », je crois qu'il faut complètement la remettre en question. Parce que si on croit que Dieu, c'est du donnant-donnant, que Dieu va nous gratifier, qu'il va nous payer, toi qui as été sage, ben voilà, tu vas avoir une bonne médaille, tu vas être récompensé. Toi, Gérald, là-bas, il n'est pas top, il ne va pas être récompensé. Alors qu'Hélène, tout le monde le sait, elle est tellement bien, mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dans notre petite tête, à nous, oui, mais dans le plan de Dieu, non. Dieu a son caractère. Dieu a sa volonté. Et Dieu est capable de dire au Satan, « Tu as vu mon serviteur Job ? Tu as vu comme il est ? Il est drôlement bien. Hein ? Il est drôlement bien. Oui, mais il est bien parce que tu le payes. Eh bien, on va voir si c'est ça. Je te le livre. Fais-en ce que tu veux, mais tu ne touches pas ça. Tu ne le tues pas. » Pourquoi ? Si vous avez une explication à cela, venez me voir à la sortie, je serai très content de la recevoir et je vous promets, je l'inscrirai même dans mes notes pour la prochaine fois où je prêcherai là-dessus. Alors, pendant qu'il y a tout ça, ce moment d'épreuve, il va y avoir des dialogues entre Job et ses trois amis. Alors, bon, je ne les ai pas tous passés en revue parce que, c'est un pavé, donc vous lirez le pavé tranquillement chez vous, vous chercherez à comprendre chez vous. Mais Job va faire des découvertes, les découvertes de Job. La première chose qu'il va découvrir chez lui, qui apparaît, c'est sa confiance en Dieu. Alors, si vous avez votre Bible, vous cherchez Job, chapitre 13, verset 5, verset 15. « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Oui, je défendrai ma conduite devant lui. C'est inouï, ça. Même s'il me tuait, je continuerai à lui faire confiance, espérer en lui. Une autre découverte. Son rédempteur est vivant. Il dira dans Job, chapitre 16, verset 19, donc c'est lui qui intervient au milieu des discours de ses amis. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon défenseur est dans les lieux élevés. Des siècles et des siècles, peut-être même des millénaires, avant la venue de Jésus, il y a une espérance dans le cœur de Job. Mon défenseur est dans le ciel. Mon rédempteur est vivant. Et il y a déjà, et j'en parlerai davantage dans quelques instants, il y a déjà une perspective messianique et christologique à l'idée que Job a un défenseur qui sera pour nous le Seigneur Jésus, le Christ. Il dira dans, je ne sais pas si j'ai noté vers, oui. « Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et Job va réaliser que le seul qui soit à charge contre lui, c'est Dieu. C'est Dieu qui est à charge contre lui. Jamais il dira « c'est le Satan qui m'a attaqué ». Jamais il dira « ce sont les circonstances qui ont été difficiles ». Il dira « c'est Dieu qui m'attaque ». Et si Dieu est à charge contre moi, bien c'est Dieu lui-même qui me défendra. Si vous voulez, il met dans sa confiance en Dieu une espérance folle, énorme. Celui qui m'attaque, c'est celui qui va me défendre. Celui qui me persécute, c'est celui qui me défendra. Celui qui me fait du mal, c'est celui qui me fera du bien. Mais vous imaginez un petit peu cette gymnastique cérébrale qui se passe là, dans son cœur. Et le seul qui puisse le sauver, pense-t-il, et le délivrer, c'est Dieu. Il m'accable, mais il me sauvera. Il me détruit, mais il me délivrera. Il me fait du mal, mais il me sauvera. C'est vraiment dans la pensée de Job. Et pour lui, le seul rédempteur, le seul arbitre entre Dieu et l'homme est fourni par Dieu lui-même. C'est Dieu qui attaque. Satan, il ne s'en occupe pas. Les circonstances, ce n'est pas sa préoccupation. Ce qui se passe là, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il a dans le ciel quelqu'un qui semble lui vouloir du mal, mais il sait au fond de lui-même qu'il peut avoir confiance en lui. Et ça, c'est la foi. Une foi énorme qui va transgresser, si vous voulez, tout ce qui serait a priori difficulté, je dirais mécanisme théologique, simplement pour s'appuyer sur sa confiance en Dieu. Alléluia. Et moi, je crois que cette dose de confiance, nous devons l'avoir, même quand on ne comprend pas, parce que malheureusement, on ne comprend pas tout. Job comprend que la justice de Dieu doit s'accomplir, mais que sa grâce et son amour sont sa rédemption. Et il dira au chapitre 16, verset 19, « Mon témoin est dans le ciel. » Alors, je suis en train de me dire une chose, c'est que Job, plus que tout autre dans l'Ancien Testament, aspire à la venue du Messie, à la venue du Christ. Il ne sait pas. Il n'a pas de formulation puisque théologiquement, on ne lui en parle pas. Sa théologie est très, très limitée. Mais je dirais qu'il perçoit par le Saint-Esprit cette possibilité qu'un jour, quelqu'un viendra pour le libérer, pour le sauver. Et je dirais en quelque sorte, le livre de Job est un livre messianique dans le sens qu'il attend le Messie, sans parler du Messie, sans parler du Christ, sans parler de Jésus, le livre de Job est un livre messianique. Pour moi, j'ai trouvé ça époustouflant quand j'ai découvert. Et Dieu lui répond, tout simplement, Job chapitre 38, à partir de là jusqu'au chapitre 42, Job aura contact avec lui. Et Dieu ne lui donne aucune explication. Il dit pas, écoute, viens là, Coco. Je vais t'expliquer les choses. Voilà, on était réunis dans le ciel. Le Satan est venu et voilà ce qu'il m'a dit. Alors je lui dis, chiche, je te livre entre ses mains. Non, Dieu ne lui donne aucune explication. Il lui dit, je vais te parler de la grêle. J'ai parlé de la biche et de son petit. Tu as déjà vu une lionne qui chasse ? Et puis alors, l'autruche. Mais qu'est-ce qu'elle est bête, cette bête ? Et puis il est là en train de lui parler de la nature, du crocodile. Ça lui fait une belle jambe, hein, le crocodile. L'hippopotame. Sauf que le crocodile et l'hippopotame sont comme des bêtes primitives, mythologie qui, quelque part, incarne le mal. Dieu lui répond sans lui donner d'explication, mais il lui demande de vaincre son ignorance et ses préjugés. Et le fait que Dieu lui réponde, il lui apporte une parole personnelle, une parole pour lui. Et quand il y a un moment d'épreuve, de difficulté comme Job l'a subi, c'est là qu'on a besoin d'entendre une parole qui nous parle à nous, qui ne va pas parler à un autre, qui n'est pas une parole qu'on va forcément extraire comme cela de notre imagination, mais c'est une parole de Dieu que l'on puisera dans la Bible, dans une prédication, au travers d'un don prophétique. Job va rencontrer ce Dieu dont il avait entendu parler et il dira, c'est où ça ? Il dira à un moment donné, « J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. » Oui, la leçon que nous pouvons tirer de ce livre est que Dieu n'a pas de compte à nous rendre à qui que ce soit sur la manière dont il agit. Je vous devine, parce que je me devine en même temps. Et je devine, au travers des propos de Job, quel serait notre propos à nous. Ah, si je pouvais te coincer dans un coin, Dieu, et te demander des explications. C'est ce qu'il dit, Job. Ça se fait, il va loin. Il dira, je vais monter là-haut au ciel. Et puis, je vais m'expliquer avec lui. Mais attends, le problème, c'est que tu ne montes pas comme ça au ciel. Et puis, demander des explications avec Dieu, le problème, c'est qu'il joue dans la cour des grands et nous encore dans la cour des petits. C'est ça aussi. Mais il a vraiment envie d'avoir des explications. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. L'expérience de Job nous apprend que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi nous souffrons, mais nous devons avoir confiance en Dieu qui est souverain, juste et saint, car ses voies sont parfaites. Si vous souffrez, si vous êtes éprouvé, si vous avez un sentiment d'injustice dans votre souffrance, vous n'aurez pas d'explication rationnelle de la terre. Et je dirais, toute explication qui vous seront fournies seront fausses. Parce que la seule explication, le seul qui est l'explication, c'est notre Dieu. Alors, essayons d'avoir les explications, essayons de comprendre. Mais si on n'y arrive pas, bien nous ne prenons pas la tête, parce que de toute façon, on ne les aura pas. Puisque les voies de Dieu sont parfaites, nous savons que tout ce qu'il fait et permet l'est également. On ne pourra jamais tout comprendre. Et de Ésaïe 55, qu'Hélène nous lisait dimanche. Non, c'est 55, ouais. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voies ne sont pas vos. Vous ne connaissiez pas ce texte ? Je vous aide. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas notre niveau, c'est l'étage au-dessus. Notre responsabilité devant Dieu est de lui obéir, de lui faire confiance et de nous soumettre à sa volonté, qu'on la comprenne ou pas. Même quand on ne comprend pas. L'obéissance avec Dieu, c'est d'obéir même quand on ne comprend pas. Alors, on le trouvera au sein de notre épreuve, je dirais peut-être même à cause de notre épreuve. Nous verrons plus clairement sa gloire en disant avec Job, « Mon oreille avait entendu. Elle avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je ne sais pas s'il a vu Dieu, mais en tout cas, il a vu Dieu dans son œuvre, dans sa création, dans sa gloire. Et là, je dirais que, alors qu'il était drapé de théories, de certitudes, certainement bien, bien bétonnées, là, ce n'est plus une théorie sur Dieu, mais c'est l'acceptation et la connaissance de qui il est. Enfin, il sait qui est Dieu. Il lui a fallu 38 chapitres, j'irai presque 41, c'est au 42 qu'il aura sa restauration, mais en tout cas, sa conception est complètement ajustée. Je termine par deux pensées, je vais aller très vite. D'abord, sa restauration. Ça commence par sa repentance. Il dira « Je m'humilie devant toi » parce qu'il réalise qu'il n'a rien compris. Et Job réalise que pour Dieu, ce n'est pas si simple. Donc, on croit que pour Dieu, tout est facile. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mince alors, je croyais que Dieu pouvait tout. Mais Dieu ne peut pas mentir, par exemple. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas agir mal. Nous, on aimerait bien que Dieu agisse mal, parfois, pour que ce soit pour notre bien à nous. Toi, Seigneur, ce voisin qui m'embête, tu devrais le coincer dans un coin et lui faire sa fête. Et là, je verrai que tu es un grand Dieu. Mais peut-être que Dieu veut nous apprendre aussi à avoir une autre attitude avec ce voisin que nous voulons que Dieu coince dans un coin. Job réalise que pour Dieu, ce n'est pas si simple. Il a la puissance et l'autorité de vaincre le mal, mais il accepte de laisser celui-ci aller à son terme. Et ça, c'est la foi de Dieu. Dieu laisse le mal aller à son terme parce qu'il sait que du mal en sortira un bien. Ça, on l'apprend pas dans les livres de théologie. On l'apprend au pied du Seigneur. Et l'on se rend compte que, quelquefois, là où le mal paraît être abondant, la grâce de Dieu va surabonder, le bien va paraître. Le bien est toujours vainqueur du mal, il en sort toujours un bien. Alléluia. Croyons cela, ayons confiance en Dieu. Et je dirais que, quelque part, un peu avant l'aube, un petit peu avant l'heure, nous avons là le message de Noël où Jésus s'est incarné sur notre terre pour vaincre le mal, non par la force et la violence, mais par la douceur de son amour. La croix, je dirais, c'est le paradoxe de Dieu. C'est comme le reflet du livre de Job. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui s'accomplit dans sa faiblesse. Le jour de Noël, la naissance du Christ, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la naissance d'un enfant, tout petit, fragile, livré à l'être humain. Et Dieu s'est glorifié par cet enfant. Mais c'est fou quand on y pense. Et vous lirez dans votre Bible, on en parlait avec Philippe il n'y a pas très très longtemps, que souvent les choses de Dieu sont des choses qui initialement sont très faibles. Moi, je veux un Dieu puissant. Non. On a un Dieu qui est mort sur une croix. On a un Dieu qui s'incarne dans un enfant. Les héros de la Bible sont souvent nés de femmes qui étaient stériles. Samson, Jean-Baptiste et d'autres encore, de femmes qui étaient stériles. Les gens qui étaient destinés à devenir des grands leaders ont commencé par connaître le désert. Moïse a passé combien d'années dans le désert? Je vous laisse vous lire dans vos Bibles. 40 années. Moïse, tout est jalonné par 40 ans. À 40 ans, il lui prend la fantaisie d'aller voir ses frères. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est d'assassiner un Égyptien. Du coup, il part 40 ans dans le désert. Et après, pendant 40 ans, il va conduire le peuple. 40 ans de formation, Falloun. Tu te rends compte? Pas comme. Voilà. Mais je réalise qu'au bout des décennies, je suis encore en formation. Et avec Dieu, on est constamment en formation. Dans l'abaissement de Dieu et l'apparence d'un échec, il y a le triomphe de son amour. Et puis, sa restauration va consister aussi à prier pour ses amis, après qu'il lui demande pardon, et curieusement, il aura le double de ce qu'il avait, avec toujours des milliers de chameaux correspondant au nombre de ses garçons, de ses filles et des milliers de brebis correspondant au nombre de ses garçons. Ça, c'est l'humour de la Bible. Ça me fait toujours rigoler quand je vois des choses comme ça. Je me dis, Dieu, quand même. Quand même. À mon avis, je crois que dans le ciel, il y aura des moments où on va se marrer. Parce qu'on aura un Dieu qui a certainement un grand humour. Si Dieu n'a pas d'humour, ben, au moins ayons de l'humour à l'égard de notre prochain. Voilà. Pour conclure, puisqu'il faut conclure à un moment donné, il y a deux choses à accepter. Je le disais à la réunion des hommes dimanche. En fait, si c'est moi qui avais écrit la Bible, je vous garantis que je n'aurais pas mis le livre de Job. C'est tellement compliqué que jamais j'aurais mis un livre aussi hermétique que ce livre. Oh, je vous promets que je n'aurais pas mis Jonas aussi. Parce qu'il y en a un qui me dérange dans la Bible, c'est bien Jonas. Ah, puis le cantique des cantiques, quand même, ça peut poser problème. Je ne sais pas si je l'aurais mis. Et puis l'Ecclésiaste, vous auriez mis, vous, l'Ecclésiaste? Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Mais le problème, c'est que si nous ne les avions pas écrits ou acceptés dans le canon biblique, Dieu a accepté qu'ils y soient, Dieu a voulu qu'ils y soient. Et si Job et les livres que je viens de citer, attendez, il faut que je mette mes notes. Hein. Si Job et les livres que je viens de citer, enfin, Job et les livres que je viens de citer ne prennent lumière que par le message du Christ du Nouveau Testament. Job, quand on le voit avec ce profil du Messie derrière, c'est limpide, c'est clair. On se dit, mais là, on n'y comprenait rien. Là, oh, brusquement, on voit apparaître le Messie. Le cantique des cantiques énigmatiques qui m'embrasse, etc., etc., etc. Ouais. Je sais pas, vous en servez, messieurs, pour votre femme? Chérie, voilà. Mais ça nous dépeint l'amour de Dieu pour nous. Et Dieu va parler dans des termes très forts de choses qui peut-être nous feraient rougir, mais qui sont propres pour lui. Jonas, est-ce que ça n'exprime pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour sa créature? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses essentiellement très intéressantes. En tout cas, Job a entrevu la nécessité d'avoir un médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ, nous dit la. De Timothée. Je dirais que dans sa souffrance, il est un type de Christ. Il a entendu les mêmes arguments. Descends de la croix. C'était raisonnable, ça, de dire ça. Descends de la croix si tu es fils de Dieu. Tu devrais faire ça. Seigneur, ordonne ordonne que l'on, que ce bourg de Samaritains, ce village de Samaritains soit détruit. Donne-nous la possibilité de le faire, et puis tu vois, on va les liquider. Qu'est-ce qu'on aimerait des fois que Dieu soit à nous, soit télécommandé par nous, qu'il soit à notre disposition. Il aurait pu, il devrait. En tout cas, les souffrances de Job seraient inadmissibles si Christ ne les avait pas assumées à la croix. Et quelles que soient nos souffrances, quels que soient nos chemins, disons-nous que tout cela a été porté par le Seigneur Jésus à la croix. Amen. Alors, sans vouloir vous regarder très longtemps, j'avais entendu une thèse, je vous la fournis. Imaginez qu'un jour Job se dise, tiens, j'ai 1 000 chameaux, non, en plus, non, j'ai 3 000 chameaux. J'ai 5 000 brebis, tu me corriges, Hélène, si je me trompe. 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, des tas de bêtes, etc. Seigneur, j'aimerais avoir exactement le double. C'est une prière qui se tient. Seigneur, tu vois, j'ai un capital, j'aimerais qu'il soit le double. Seigneur, j'aimerais avoir le double. Et que Dieu lui dise, bien, écoute Job, c'est là où on va réfléchir à la prospérité. Écoute Job, avant que tu qu'on double ton patrimoine, tu vas commencer par tout perdre. Et puis on va voir comment tu réagis. Et puis voilà, Job perd tout, il réagit bien, et que Dieu lui dise, et dans le fond, puisque tu as si bien réagi, ça me montre que tu es un bon gestionnaire parce que tu as su gérer ce qu'il y avait dans ta tête et dans ton cœur. Que pensez-vous de ma thèse ? Je la laisse à votre réflexion. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.